Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui. Elle. D'actuel.
Et lui.
Bonjour et bienvenue sur 48FM pour ce nouveau numéro d'Actuel et lui, numéro en direct depuis la place au blé. Et on retrouve évidemment Anne-Marie.
Coucou.
Et Aurélie.
Bonjour.
Alors, au programme aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler, Anne-Marie ?
Je vais vous parler de gastronomie japonaise.
Eh, mais en parlant de gastronomie, Guillaume, tu devais pas faire des lasagnes ?
Et si, c'était mon défi de la dernière fois, mais. Je n'ai pas eu le temps, ça sera partie remise pour une prochaine émission.
Voilà, le gage continue, Guillaume, on attend, hein, on attend.
En même temps, voilà, la gastronomie japonaise, je n'en vois pas sur la table. Hein, mais
bon. Et non, pourtant, on a fait des tests avec Anne-Marie. Oui,
du coup, j'ai fait des tests la semaine dernière, donc du voilà. Poisson cru, tu vois, Guillaume, je pense qu'aujourd'hui, on aurait été un petit peu malade. Ouais,
hein. On s'est dit qu'on allait pas t'empoisonner tout de suite.
on en parle dans un instant. Aurélie, tu nous parleras en troisième partie de l'émission.
Moi, je vais vous parler du temps. Temps qui passe.
Voilà, le temps qui passe, l'horloge tourne, c'est exactement ce que tu nous diras tout à l'heure.
C'est ton anniversaire ? C'est le petit gimmick. Non, je vais vous parler du changement d'heure, puisqu'on a changé d'heure ce week-end.
Voilà, et moi je vous parlerai de télé-réalité. Voilà, un truc pas très très intéressant, mais vous verrez, on pourra peut-être un peu s'en moquer, malgré l'actualité peut-être un peu lourde sur certains de ces programmes.
Mais on en entend beaucoup parler.
Bien, bon, on commence avec la cuisine japonaise, Anne-Marie. Alors, pourquoi nous parler de ça aujourd'hui ?
Oh bah écoutez, je me suis dit qu'à l'occasion de la fête des fleurs au Japon, qui s'intitule l'Anna Matsuri, alors désolée, je n'ai pas l'accent japonais, mais voilà, je vous le dis en français, donc l'Anna Matsuri qui est fêtée le 8 avril, donc bientôt, donc je me suis dit que j'allais vous parler des plats originaires de ce pays. Et puis, je ne vais pas non plus vous le cacher, manger japonais, c'est mon petit péché mignon, et je crois que c'est aussi celui de notre amie Aurélie.
Et oui, on est fan.
Tu confirmes ? Donc j'avais envie de nous faire plaisir et de vous faire plaisir. Si vous êtes également accro à la cuisine nippone. Donc vous l'avez bien compris, sushi, sashimi, maki sont au menu de cette chronique culinaire. Et une petite parenthèse pour les non-initiés donc, de ces pratiques culinaires, le sushi est un plat emblématique du pays du soleil levant. Il est composé essentiellement de riz et de poisson cru.
Alors, ça a beaucoup de succès en France ces derniers temps, avec beaucoup de restaurants qui sont ouverts, etc. Mais de quand date cette tradition culinaire japonaise ?
Eh bien, en fait, il faut remonter très très loin dans le temps pour voir apparaître le premier sushi. C'était à peu près aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à la date à laquelle la riziculture s'est installée au Japon. Là, je fais un immense saut dans le temps, donc toujours notre problème, hein, Aurélie, tu le disais,
de manger japonais.
Non, mais surtout de temporalité. Donc là, je fais.
Ça commence bien.
Voilà, là, je fais un saut dans le temps.
Une fois elle n'a pas compris.
Et là, pourtant, Aurélie tourne à l'eau et pas au rosé. Bon, il y a du souci à se faire.
On repart avec un bond, effectivement, de quelques années.
Voilà, quelques années dans le temps, puisque là, je vais vous parler d'aujourd'hui. Hein, et bien, depuis quelques années, un essor considérable de restaurants japonais en France s'est créé. En 2010, on comptait des restaurants japonais à peu près, donc il y en avait plus de 1580 contre 1750 de fast-food et de hamburger. Donc vous voyez, il n'y avait pas une grande différence. Environ 66% des restaurants japonais sont à Paris et le reste se trouve dans les grandes villes. Bon, on peut évidemment regretter le fait qu'il n'y ait pas de restaurants japonais à Mende. Mais bon.
Et oui. Il existe, en fait, sushi, c'est un peu le terme générique, quoi. Ça désigne toutes ces petites bouchées au riz.
C'est ce qu'on va voir
après. Il en existe plusieurs sortes.
Exactement. Il y a plusieurs noms, plusieurs sortes. Oui, tout à fait. Le choix, en fait, est très diversifié. Alors, on trouve des nigiri sushi, des maki sushi, des temaki sushi, des oshi sushi. Hein, c'est pas facile à prononcer. Et encore.
On sent que t'as travaillé.
Ah, vous avez vu ça. Non, mais c'est surtout que moi, je suis fan de sushi, donc ça va. Et donc, on peut aussi manger des California rolls. Là, c'est plus facile à prononcer. À base de riz et d'avocat. On peut aussi manger des brochettes de champignons, de fromage, des boulettes de viande pour les personnes qui préfèrent le cuit au cru. Bref, vous le voyez, il y a une grande variété dans les mets. Alors cependant, il ne faut pas penser qu'au Japon, les gens ne mangent que des makis ou des sushis. On s'imagine toujours que la base de leur alimentation est composée de riz. Or, c'est faux. C'est comme si des étrangers pensaient qu'en France, on ne mange que du fromage et du pain. Alors oui, on en mange, mais on ne mange pas que de ça. Donc, il faut savoir qu'au Japon, la malbouffe existe aussi. Les burgers, ils mangent des frites. Sinon, les Japonais aiment savourer des soupes, mangent des plats à base de viande, comme les tonkatsu. C'est du porc pané.
Magnifiquement fait. Hein. Prononcé, l'accent, nickel.
Je vais bientôt partir au Japon. Donc en fait, le tongatsu, c'est du porc pané.
Non, mais donc du porc pané.
C'est du porc pané sur une salade composée avec des légumes confits. Aurélie, tu me distrais. Oh là là.
C'est l'accent du tongatsu qui me...
Voilà. Oui, qu'est-ce qu'ils mangent d'autre?
Ils raffolent aussi de pâtes et bien évidemment de poissons, puisque n'oublions pas que le Japon est un archipel, donc c'est avant tout un pays de pêcheurs. Des Japonais tellement friands de poissons qu'ils condamnent certaines espèces comme le thon rouge, on a pu en entendre parler dans l'actualité ces dernières années. On trouve également au Japon des restaurants spécialisés dans la cuisine du fugu, le poisson lune, qui peut être mortel s'il est mal préparé, donc à bon entendeur.
Alors, comment se fait-il que ces plats aient autant de succès?
Alors, évidemment, là, ça ne va pas être un critère objectif, mais c'est très bon. Personnellement, je trouve que le goût du poisson cru est meilleur que quand il est cuit. Ça fond sous la langue. Le saumon cuit, par exemple, est sec. Cru, il est croquant. En plus, le côté froid des aliments donne du peps au plat. Quant au gingembre, il apporte de la fraîcheur au plat. Et le wasabi relève un peu plus le goût.
Le gingembre, de la fraîcheur au plat. Ouais. C'est bien noté.
Tu veux en manger ce soir? Enfin bon, après, cela ne nous regarde pas. Et donc, le wasabi amène une petite note de piquant fort agréable en bouche. Donc, je pense aussi que si on aime autant cette cuisine japonaise, c'est une invitation au voyage. C'est vrai qu'on mange avec des baguettes et non des fourchettes et un couteau. Donc, ça nous change un petit peu aussi de notre quotidien.
Oui, et puis c'est une cuisine qui est assez légère, qui est assez saine. Justement, la fraîcheur dont tu parlais, la légèreté, c'est assez sympa. C'est bon pour la santé, je crois.
C'est excellent même pour la santé. Alors, prenons l'exemple des maki sushi. Donc, on les obtient en roulant du riz avec du poisson et des légumes. On colle l'ensemble sur une feuille d'algues en l'humidifiant pour obtenir une sorte de rouleau qu'on découpe ensuite en tranches. On peut aussi cuisiner ces algues avec des temaki sushi, donc littéralement sushi roulé à la main. C'est une sorte de cône. Donc, sachez que ces algues sont riches en enzymes, en sels minéraux et en oligo-éléments. Les algues aident le corps à éliminer les effets nocifs des matières grasses animales. Elles aident à neutraliser les produits toxiques que nous consommons, permettent de prévenir l'apparition de l'arthrite, des désordres nerveux et du dysfonctionnement du système endocrinien. Un autre produit est utilisé dans la confection de maki, ce sont les graines de sésame. Elles ont des vertus antioxydantes, sont riches en vitamine E, fibres et phytostérol qui abaissent le taux du mauvais cholestérol.
Mais il y a aussi du riz.
Oui, exactement. Il ne faut pas oublier que le riz est donc à la base de toutes ses spécialités. Cuit à l'eau, il est peu calorique et riche en vitamine B1, en phosphore et en amidon. Donc autrefois réservé aux aristocrates, aux guerriers et pour des occasions spéciales, il est donc devenu à la base de l'alimentation japonaise. Ce riz peut être trempé dans la sauce soja, sorte de condiment. Cette dernière est riche en magnésium, en potassium et en fer. Le shoyu ou le miso sont les deux sauces les plus anciennes et les plus employées dans la cuisine japonaise.
Elles ne sont pas très salées?
Si, alors elles sont salées et elles sont aussi sucrées. Tout dépend ce que vous préférez. Moi, je préfère par exemple le salé, la sauce soja salée.
Oui, puis de toute façon, on n'en met pas un demi-litre. Donc non, en fait, c'est vraiment, même si c'est très salé, on n'a pas beaucoup d'apport en sel en fait.
Mais c'est sûr qu'après, voilà, il ne faut pas non plus tartiner le sushi de sauce. Hein. C'est très léger. Hein. Bon, on parlait il y a deux semaines des lasagnes. Là, c'est sûr qu'on est sur une cuisine très saine. Alors, justement, donc, on ajoute le wasabi sur les sushis aussi. Enfin bon, après, ça, c'est, tout dépend de ses préférences. Mais sachez donc que le wasabi a une forte teneur en vitamine C et il recèlerait aussi d'agents efficaces dans la prévention des caries. Donc, c'est bien aussi pour les enfants.
Voilà, mais on recommande pas de se brosser les dents avec quand même parce que
ça pique.
Voilà.
Et enfin, dans les restaurants japonais, on vous propose aussi de manger en entrée une salade de chou. Et le chou, c'est un très bon oxydant. Et puis, évidemment.
Antioxydant.
Antioxydant.
Oui, t'as dit oxydant.
Ah, oui. Pardon, anti. Et puis sans oublier le poisson, qui est très riche en oméga 3, enfin surtout le poisson gras comme le saumon. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire plaisir sans prendre un gramme. C'est bon pour votre corps, léger et en plus diététique.
Donc on peut en manger sans restriction.
Bah, attention tout de même, le poisson cru peut être à l'origine d'infections et de parasitoses. Si on veut cuisiner soi-même des plats japonais, il est quand même recommandé de congeler le poisson à moins 20 degrés durant au moins 72 heures dans son congélateur. Bien demander aussi à son poissonnier si on peut manger le poisson cru, car cela dépend aussi des dates d'arrivage. Donc voilà, on pose la petite question et puis s'il nous dit non, bah tant pis, ça sera pour une prochaine fois.
Bon, et donc vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez expérimenter tout ça, et donc comment ça se passe ?
Alors évidemment, de toute façon pour cette rubrique, je me suis dit quand même, il fallait que je teste pour vous la fabrication maison de sushi et de maki. Et un peu comme dans Top Chef, j'avais besoin d'un second en cuisine, et donc j'ai demandé à notre amie Aurélie de bien vouloir m'aider, puisque donc elle est aussi passionnée par cette cuisine.
Bon, oui. Et alors le résultat ?
Eh bien alors, Guillaume, il faut du temps. Hein. On doit laver le riz plusieurs fois en le frottant, le laisser s'égoutter, puis le cuire pendant 25 minutes pour qu'il colle bien. Et en plus, c'est du riz spécifique, Aurélien. Toi, tu nous en avais apporté.
Oui, c'était du riz à sushi.
Voilà. C'est pas le riz que vous trouvez forcément dans tous les supermarchés.
Il est plus rond, en fait, plus trapu.
C'est peut-être c'est un riz différent aussi des riz pour les risotto.
Et je pense, oui.
Oui.
Ouais, donc, on n'a pas testé avec le riz à risotto.
Il faut plusieurs, il va falloir avoir plusieurs catégories de riz. Hein.
Eh oui. Bah comme il y a plusieurs catégories de pâtes, effectivement. Donc et puis voilà, parce que là, il faut bien qu'il colle. Donc c'est du riz spécifique. Donc quand il a bien cuit et qu'il colle bien, eh bien on l'asperge de vinaigre de riz. Et en attendant donc qu'il refroidisse, on peut couper des fines lamelles donc du poisson et autres ingrédients hein, comme de l'avocat, des surimi pour les makis ou autres. Hein. De toute façon, c'est sûr que ce qui est bien avec les sushis, c'est qu'on y met un petit peu ce qu'on veut hein, de toute façon. Donc pour le choix des poissons, faites-vous plaisir.
On peut y mettre du cheval aussi dedans.
Bah écoute, si ça te dit, Guillaume, tu peux, hein. D'ailleurs, tu aimes les makis, on n'en a pas parlé.
Mais non, pas trop, mon truc. Mais en même temps, ce que tu m'as envoyé comme photo de cette préparation, ça avait l'air quand même relativement sympathique.
Mais quand tu dis non, ça me dit pas trop, c'est que tu en as mangé et que tu n'as pas aimé le goût, ou c'est parce que tu as peur de manger cru, par exemple ?
Non, ça me gêne pas de manger cru, mais c'est plus que c'est pas. Enfin voilà, c'est pas les goûts que je préfère.
Mais donc tu en as mangé ?
Oui.
Tu as goûté ? D'accord. Bon, tant pis. Hein. En tout cas, pour le choix des poissons, faites-vous plaisir. Alors justement, avec Aurélie, lors de notre atelier cuisine, on a choisi du saumon. Mais on aurait très bien pu cuisiner de la dorade, des crevettes, du bar, du maquereau. Hein, tout dépend évidemment des préférences.
Alors comment on fait, oui, voilà.
Donc quand le riz justement est tiède, dans la paume de main, et là faites attention à ne pas vous brûler, n'est-ce pas, parce que
oui, il ne faut pas être trop pressé en fait, on va attendre que...
Il y a donc une petite histoire.
Il faut attendre que ça mal. Froidisse.
Mais bon, c'était pour le sushi, alors c'était la bonne cause. Donc quand le riz est tiède, dans la paume de main, en faire des grosses boulettes ovales, pour des sushis. Pour les makis, munissez-vous d'une natte de bambou pour bien rouler le riz, le poisson et l'avocat dans une feuille d'algue avant d'ajouter des graines de sésame. Le faire de préférence sur une table. Mais toi, Aurélie, tu disais qu'on n'était pas obligé de prendre une natte de bambou.
Et non, effectivement, moi, j'ai ma petite sœur qui m'a offert une espèce de gros rouleur à sushis. Donc, je ne l'ai pas encore testé. On doit faire un tome 2.
Une machine spécifique.
Voilà, une machine spécifique pour rouler les sushis. Soi-disant, c'est formidable. Ça fait tout seul. On verra.
On vous tiendra au courant
de nos tests.
Chers amis auditeurs. Alors, évidemment, tout ça, c'est un petit peu long, mais c'est surtout très technique. Hein, comme je le disais tout à l'heure, le riz doit bien coller pour ne pas s'effriter. Alors, il faut savoir qu'au Japon, la préparation des sushis est considérée comme un art. On dit même qu'il faut 10 années de pratique avant d'acquérir le titre de sushiya, littéralement maître sushi. Donc vous voyez, avec Aurélie, on a encore un peu de marge avant de se faire appeler sushiya.
Voilà.
Et on peut faire ce qu'on veut finalement avec les recettes ? On peut faire aussi du sucré ?
Eh bien oui, en fait, il faut savoir que le sushi a su s'adapter à certaines habitudes alimentaires du pays où il s'est implanté. Alors, il a su s'adapter, c'est surtout les gens qui l'ont adapté, bien évidemment. Il s'est en réalité occidentalisé. Donc ainsi, les très populaires California Rolls sont nés aux États-Unis. Le riz est à l'extérieur et non à l'intérieur de l'algue. La chair animale est constituée de crabes ou de surimi pour éviter de manger cru. Et par ailleurs, le véritable repas japonais ne comprend pas de dessert, sauf dans les réunions festives ou lors de la fameuse cérémonie du thé, donc c'est très rare. Le petit hic, c'est que nous, en France, on aime bien manger sucré.
Hein. Je suis bien d'accord.
On finit toujours par une petite note sucrée, un dessert. Et donc là, au lieu d'enrouler le riz autour d'un avocat ou de surimi, eh bien, on met désormais du chocolat et de la banane. Et pour que le riz aussi soit meilleur et bien sucré, on le trempe dans le lait de coco. Mais bon, pas sûr que ce soit aussi diététique que le maquis salé, par exemple.
Oui, effectivement, là, déjà, ça semble un petit peu moins diététique.
Oui, ceux que j'ai goûtés, moi, ils étaient à la place de la feuille d'algue, ils étaient enroulés dans une crêpe, toute fine.
Et là, mal. Ça devrait te plaire, non, Guillaume?
Ouais, ça devrait être pas mal. Ouais,
bizarrement,
ouais.
Tu as bien aimé.
Oui. L'autre déclinaison, c'était ananas, feuilles de menthe et un petit peu de gelée de groseille, donc dans le riz à la noix de coco. C'était pas mal non plus, hein, franchement. Mm-hmm. On essaiera.
Tu nous en as pas ramené?
Et non. J'ai goûté, j'ai noté les recettes et ensuite, on pourra tester.
Bon, voilà, on va remercier forcément Anne-Marie pour toutes ces citations, son implication et son travail de prononciation.
Parce j'ai que, fait ça sérieusement.
Voilà, sushi, sashimi, maki,
tonkatsu.
Tonkatsu, ça fera toujours rire Aurélie.
Fugu, voilà. Donc merci Anne-Marie
pour
avoir évoqué effectivement.
Et puis on peut quand même souhaiter un bon appétit aussi à nos amis auditeurs du coup.
Ben oui, voilà.
C'est l'heure.
Effectivement, c'est l'heure. Alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour cette pause musicale qui s'annonce?
Eh bien, pour rester dans la thématique culinaire, j'avais envie de vous proposer La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz.
Voilà, donc on reste sur les sushis
sucrés. Sur la gourmandise.
Enfin, surtout sur la note sucrée.
Voilà. C'est parti, Olivia Ruiz.
Donc on est de retour dans la deuxième partie d'Actuel et lui. Et justement, c'est lui, Guillaume, qui va nous parler aujourd'hui de télé. Et pas de n'importe quelle télé, de télé-réalité.
Oui, on va surtout parler effectivement de télé-réalité, alors que la nouvelle saison de Pékin Express a commencé à être diffusée hier, je crois. On peut difficilement ne pas évoquer la triste histoire sur l'autre programme d'aventure très connu, cette fois-ci de TF1, puisque Pékin Express est sur M6, qui est donc Koh-Lanta. Et donc, effectivement, vous l'avez tous un petit peu entendu dans les actualités. Le tournage de cette nouvelle saison de Koh-Lanta commençait, il y a un des candidats, Gérald Babin, qui est décédé au cours de l'épreuve lié avec un arrêt cardiaque.
C'était la première épreuve, c'était le premier jour.
Voilà. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques cette semaine là-dessus, notamment sur le temps d'intervention du médecin dans le cadre de ce tournage, parce que les organisateurs, la société de production essayait de continuer à tourner tranquillement, vraisemblablement, et a laissé un petit peu de côté le candidat pas très en forme. En tous les cas, il y a un certain nombre de témoignages qui sont dans ce sens-là. Et puis donc après, il y a eu tout un système pour l'évacuer qui a été relativement long. Et donc il y a eu une version officielle, bien entendu, de TF1 et de la production Adventure Line Production, qui eux disaient que bien sûr il avait été que effectivement l'épreuve s'était terminée, mais qu'ensuite il l'avait pris en charge, qu'il l'avait ensuite accompagné, certes au départ en barque et ensuite en hélicoptère, mais voilà qu'il était intervenu très rapidement pour le secourir et vraiment gérer les choses au mieux. Voilà.
Le problème, c'est que c'est vrai qu'on n'y était pas. Et j'ai envie de dire, comme tout accident comme ça à la télévision, il y a toujours évidemment des polémiques. Il faut quand même rappeler que ce jeune homme est mort d'un arrêt cardiaque. Mais en fait, c'est ce qu'il disait, c'est que quand ça s'est passé, il ne se doutait pas que son cœur, finalement, allait cesser de battre. Il pensait que c'était peut-être qu'il souffrait de déshydratation. Alors, effectivement, on peut se dire... parce qu'on regarde souvent Koh-Lanta, il y a souvent des petits accidents. Je me suis foulé la cheville. C'est vrai qu'ils ne vont pas penser tout de suite à appeler l'hélicoptère. Finalement, là, ils auraient peut-être dû le faire, effectivement, un petit peu plus rapidement. Mais c'est extrêmement rare, quand même, ce genre d'accident... D'autant plus, encore une fois, il avait 25 ans, c'était plutôt quelqu'un de bien bâti. Hein. On a vu des photos, il était très musclé. Il ne s'attendait peut-être pas à ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une polémique, que je trouve, qui est un petit peu honteuse aussi par rapport à cet accident.
C'est certain, il y a eu pas mal effectivement de polémiques. La grande question, c'est...
On s'en est servi aussi pour se faire connaître. C'est dommage parce qu'il y a quand même une famille qui est en deuil maintenant, aujourd'hui deux, puisque tu vas nous l'expliquer après.
Je vais le dire après, effectivement, puisque le médecin s'est suicidé lui aussi. Mais effectivement, ce qui est frappant dans tout ça, c'est déjà effectivement les différentes versions. Alors, c'est forcément le cas sur quelque chose, sur un événement de cette nature. Maintenant, la question, effectivement, les enregistrements ont été transmis à la justice par la société de production. L'avocat de la famille de Gérald
Babin.
Oui. Qui est donc décédé. C'est maître Jérémy Assous, qui est un avocat connu dans le domaine des médias. Lui dit a priori hier que tous les passages filmés de l'intervention médicale n'ont pas été livrés à la justice et qu'ils ont été détruits. Le débat est encore en cours et c'est sûr que c'est pas forcément très sympa de parler de tout ça. D'autant plus qu'effectivement, toute cette polémique a conduit au suicide du médecin du programme, qui ne supportait pas effectivement il était remis en cause. Et donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de se faire vraiment un avis sur la question. Voilà, Il y a des temps d'intervention dont, bien sûr, la justice fera l'analyse et déterminera les responsabilités. Par contre, je crois que ça pose vraiment une question sur l'avenir de ce programme. Donc, d'ores et déjà, TF1 a annoncé l'arrêt de cette saison. Et donc, il n'y aura pas de saison cette année. Avec...
Ce qui était normal. Maintenant, d'arrêter Ad Viternam, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, déjà, c'est une émission qui marche très bien. Enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques footballeurs qui ont aussi eu des arrêts cardiaques sur le terrain et on n'interdit pas le foot. Enfin, ce qui est dommage. Mais...
Non, mais après, je pense que tout dépendra aussi de l'enquête de justice et des conclusions qui seront.
C'était pas la première fois, pour Koh-Lanta, version française aussi, mais je crois que c'était la quatrième mort.
Tout à fait, effectivement, il y a eu d'autres morts, notamment sur les versions.
Un noyé aussi, qui s'est noyé.
Voilà, et au-delà de cette situation tragique. Effectivement, c'est une vraie problématique pour TF1 parce que ça veut dire 14 prime time à remplacer et
c'est qui marchait en plus super
avec effectivement une marque et un programme qui marche très très bien sur les cibles commerciales. Donc c'est effectivement un vrai casse-tête pour eux, d'autant que ils ont pas forcément beaucoup de choses en stock, hein. Oui, tu disais que ça avait séduit beaucoup l'année passée. Koh-Lanta Malaisie, c'était 7,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Ça correspond à peu près 30% du public. C'est donc effectivement vraiment très très important. Alors
tu en faisais partie d'ailleurs?
Non, je suis pas très fan de tout ça, mais bon voilà.
Moi j'aime
bien. Alors qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Ils pourraient mettre de la fiction française, mais c'est pas forcément les plus performants en termes d'audience et c'est les plus chers, donc vraisemblablement ça sera pas le cas. Ils pourraient proposer du cinéma. Le problème, c'est que la diffusion des longs métrages est interdite le vendredi soir sur les chaînes. Oui, c'est notamment pour préserver le cinéma. En fait, il y a un nombre de choses qui sont pas autorisées sur certains grands médias pour favoriser l'activité cinématographique dans les cinémas. Et voilà, après
Arthur, il va peut-être nous trouver quelque chose.
Voilà, mais c'est ça. Alors, il y a effectivement des unitaires, les enfants de la télé, etc., qui vont sans doute meubler quelques numéros. Après, c'est vrai que sur ce qu'on appelle les émissions de flux, il n'y a pas grand-chose de disponible. Il y a The Voice, mais qui vient de se terminer, qui est en train de se terminer plutôt. Splash est terminé. Danse avec les stars, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc se relancer là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de formats non plus sur le marché a priori qui pourraient être facilement adaptés, justement pour avoir une puissance aussi importante en termes d'audience. Alors une des pistes, c'est de programmer Grey's Anatomy.
Là, on vote pour. Donc.
Voilà, sachant qu'il est déjà programmé à partir du 24 avril, je crois que ça recommence. Oui. Mais ça veut dire
donc, ça serait une rediffusion alors.
Ça voudrait dire qu'ils en diffuseraient un petit peu moins et qu'ils équilibreraient les choses peut-être en utilisant les deux créneaux, en faisant basculer peut-être en cours de saison d'un jour à un autre. Enfin voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de choses qui ont été calées là-dessus. Mais effectivement, ça aura un impact, c'est certain, sur cette programmation de TF1.
D'accord. On reste dans la télé-réalité exotique parce que je crois que tu voulais aussi nous parler des candidats de l'île de la Tentation qui, alors attention, se revendiquent artistes-interprètes.
Oui.
C'est vrai, quand on voit la plastique des jeunes femmes,
c'est des artistes, forcément, c'est des artistes.
Voilà, donc c'est Anne-Marie qui m'a fait remonter cet article. Donc effectivement, le gros de l'histoire, c'est simplement de se dire que effectivement les différents participants disent que l'émission est scénarisée, donc en conséquence il y a un scénario et donc ils peuvent être reconnus comme artistes interprètes. C'est quelque chose qui est arrivé sur beaucoup de téléréalités précédemment, et ce qui change totalement effectivement la question de la rémunération, puisque à ce moment-là on rentre dans des cadres beaucoup plus compliqués. Alors malgré tout, la chaîne et le producteur se défendent en disant que même s'il existe quelques éléments de scénarisation, on n'interprète pas sa propre vie. C'est le principe de la télé-réalité, réalité, c'est de montrer la vie. Bon, voilà, avec certains jeux.
Ils sont pas contents, ils n'y vont pas, quoi. Enfin,
voilà. Après donc, tout, et c'est aussi le deal.
C'est 3 semaines de vacances à boire, à manger, et puis au tunnel. Voilà. Bon, et en plus, il faut les payer. Bon, c'est vrai que c'est un peu honteux.
Oui, voilà, sachant qu'ils ont un contrat au départ et qu'ils sont d'accord avec ce contrat au départ. Donc, c'est aussi.
Comment retourner sa veste quand on devient célèbre, entre guillemets, quoi.
Alors, on va parler peut-être d'une autre télé-réalité sur W9, qui arrive le 16 avril, donc tout bientôt. C'est La Belle et ses princes presque charmants, la deuxième édition. Voilà, cette émission, en gros, où il y a une belle et 8 beaux et 8 moches. Hein, parce que bon, voilà.
Ah, c'est ça, les presque charmants.
Oui, parce que non, mais voilà, enfin, je veux dire, qu'on nous explique qu'ils privilégient leur beauté intérieure. En gros, on cherche du stéréotype bien moche, histoire de mettre en face des beaux stéréotypes bien beaux, mais peut-être un peu cons.
On espère, parce que s'ils sont beaux et intelligents, là, c'est insupportable.
Voilà, donc bon, c'est pas un programme, enfin, c'est un programme qui est. Enfin, voilà, qui est riche de petites phrases, de choses assez, assez dégueulasses finalement. Et c'en est presque écœurant. Enfin, moi, je me souviens, l'année dernière d'avoir presque été écœuré devant ce programme en se disant, mais enfin, voilà, je change de chaîne parce que j'ai pas envie de regarder ce truc-là tellement c'est pas sur des très très beaux modes de raisonnement. Enfin, en tous les cas, on valorise pas des choses très intéressantes. Surtout que qu'elle a retenu le beau à la fin, quoi.
Oui, le beau. Et puis ils sont pas restés longtemps, je crois.
Ensemble, c'est votre côté fleur bleue. Vous espériez que le moche allait l'emporter, comme dans le vrai prince charmant.
Je veux dire, le titre, vous c'est ça. La Belle et ses princes presque charmants, c'est l'objectif malgré tout. Hein. Voilà, alors après, toujours sur W9, c'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est pas très écrit, je suis d'accord. Bon, voilà. Toujours sur W9, c'est YOLO qui s'arrête.
Mais c'est alors, quoi YOLO ?
Alors, YOLO, c'est une script reality. Alors, c'est quelque chose, c'est un peu un entre-deux entre la télé-réalité et la série de fiction. Et bon, au bout de 8 semaines de diffusion, ça va s'arrêter. Ils avaient changé de créneau horaire. Mais là, bon, il y a plus personne devant, il y a plus personne devant.
Mais attends, là, YOLO, c'est quoi ? C'est français ? Là, c'est un programme qui est français.
YOLO, on n'a qu'une vie, voilà.
Mais et il y a des acteurs.
Oui, c'est en fait c'est des acteurs
connus.
Non, c'est des voilà, c'est un peu dans la même dynamique
que la télé. C'est les artistes de tout à l'heure.
Voilà, c'est un peu la même dynamique que la télé-réalité.
On les recycle, voilà.
Oui, ben il y a un peu de ça, oui. Enfin voilà, donc c'est.
Mais il y a une histoire.
Oui, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une espèce de série un peu dans l'idée de ce qui avait fait Sous le Soleil, etc. Enfin, de ces grandes séries de fiction,
bien,
oui, voilà, mais qui étaient grandes séries de fiction et qui étaient écrites comme de la fiction. Et là où on est dans un mélange, dans un entre-deux entre la fiction et la réalité, avec justement dans ce format-là, finalement un intérêt assez peu porté sur la qualité du jeu. Donc effectivement, ça n'a pas très bien marché.
Alors, en même temps, tout dépend aussi qui recrute. Enfin,
oui, voilà. Mais il y a d'autres programmes de script réalité qui marchent relativement bien, notamment sur France 2, hein, qui est produit par Julien Courbet. Ça s'appelle Le jour où tout a basculé. On sait que c'est kitsch, on sait que les acteurs jouent mal, mais d'une certaine façon, c'est aussi le style de ce programme.
Regardez Plus belle la vie, ça marche du tonnerre, alors que c'est pas.
Ah, c'est une fiction quand même. Hein.
Voilà, mais c'est pas joué. Une émeute devant le studio si tu dis que Plus belle la vie, mais c'est pas joué. Terrible, que c'est mal joué.
Voilà, donc W9 va attraper YOLO. Et donc, à la place, il y aura des épisodes de Soda. La série avec
pour les
Jones, mais bon, qui où en fait il y a peu de nouveaux épisodes, donc ils rediffusent beaucoup d'épisodes, donc on voit toujours les mêmes, donc c'est finalement assez lourd.
Par contre, c'est à 16h45, c'est
oui,
ça
c'est ça, c'est à 16h45.
Et tu regardes ça tous les jours?
Non, parce que
je travaille pas en fait, Guillaume.
Non, mais en fait, ils rediffusent Soda le week-end aussi.
Ah, donc tu regardes ça tout le week-end?
Je regarde un peu le week-end parfois. et puis donc après Soda, il y aura sur W9 des épisodes de Malcolm et des épisodes des Simpsons.
Alors,
voilà,
pareil, hein,
autant
c'est
vous dire
re, non.
Voilà, oui, là je pense que les cassettes doivent être un petit peu usées à force. Hein.
Voilà. Alors on était Sous le Soleil tout à l'heure, et justement tu voulais nous parler d'une autre émission de télé-réalité. Allez, les Belges à Saint-Tropez, après les Ch'tis et les Marseillais.
C'est pas les gendarmes.
Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et c'est toujours W9 qui s'y colle. Et ça, c'est un programme pour cet été. C'est encore du n'importe quoi. C'est-à-dire que après avoir mis montrer des ch'tis qui n'étaient pas forcément au meilleur de leur avantage. Maintenant, on va le faire avec des Belges. Donc, les ch'tis, on les a envoyés à Las Vegas, un peu partout.
Le but, c'est de la caricaturer le plus
et
possible.
On comprend un peu difficilement pourquoi les gens, finalement, vont dans ce type de programme. Parce que même s'ils sont payés, quand même, voilà.
Oui. Ils doivent bien se douter qu'ils passent pour les dindons de la farce, effectivement.
Ben,
oui.
Mais tu as déjà regardé ce programme ou pas?
J'ai regardé les ch'tis, parce que c'est l'ensemble, hein, c'est toute une série, mais c'est quand même...
Mais alors c'est quoi en fait, ils sont dans une maison, c'est un petit peu comme...
En gros, tu prends un groupe de gens qui viennent des ch'tis par exemple, et tu les envoies à Las Vegas, et ils vont vivre dans une maison.
Le choc
des
cultures.
Voilà, et c'est ça, c'est le choc des cultures, et tu mets en évidence tous les défauts, toutes les faiblesses finalement de ces gens, alors que c'est pas forcément très très intéressant, en tous les cas à mon avis.
Et alors, pour finir, le tour de la télé-réalité, une émission qu'Anne-Marie adore, la Star Academy, pourrait revenir ?
Non.
Non ?
Non, mais...
Pas du tout, non plus.
Il n'y a pas une émission de chanson que tu as.
Nouvelle Star.
Nouvelle Star.
Oh là là,
Aurélie, vous voyez, moi, je ne fais pas la différence entre tout ça.
Voilà, donc, non, mais je ne vais pas d'abord parler de Star Academy. Non, mais allô, quoi. Hein, je vais parler, bien sûr, des anges de la télé-réalité.
Ah, Aurélie.
Voilà, avec.
Ah, Aurélie, quoi.
Allô, quoi. Hein, Aurélie. Ouais, voilà. Hein, voilà. Donc, voilà, cette phrase du allô, quoi, c'est la grande phrase du moment.
Mais tu l'imites très bien, d'ailleurs, cette petite Nabila.
Ah oui, je me suis entraîné aussi. donc voilà.
C'est parti de tes fantasmes.
Pas du tout. c'est donc la télé-réalité du moment.
Je deviens pas rouge.
C'est n'importe quoi. Donc, c'est la télé-réalité succès du moment, je disais, la saison 5 des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12, qui fait des très très fortes audiences, notamment sur les 15-24 ans, puisqu'on est à plus de 30% de parts de marché, jusqu'à 43% certains jours. Donc là, on est vraiment sur vraiment quelque chose de très important. Alors, il faut quand même savoir que Les Anges de la télé-réalité, c'est un programme de télé-réalité de recyclage d'anciens candidats de télé-réalité.
C'est un pot pourri.
Oui, voilà. Avec quelques trucs en plus, mais quelques-uns en plus. Enfin, un pot pourri, voilà.
Quelques personnes.
On rajoute quelques.
En fait, voilà, ce sont tous des candidats qui ont participé à d'autres émissions, sauf, je crois, deux personnes qui sont dites anges inconnus.
C'est ça.
Donc, peut-être que toi, l'an prochain, Guillaume, ou toi, Aurélie.
Non, j'y tiens pas, vraiment pas. Donc voilà, il y a eu le grand buzz du halo, non mais halo de Nabila, hein, pour une question de shampoing et de cheveux. Hein.
Ah oui, elle n'était pas au téléphone, en fait.
Non, pas du tout.
Elle imitait le combiné téléphonique. Dans
voilà,
non, mais halo, quoi.
Voilà, donc en fait, il y avait...
pas de shampoing.
En fait, pour expliquer toute l'histoire, parce que je me suis quand même documenté. Hein.
Ah bon, que ça t'a passionné.
Ah oui, je me suis documenté. Donc en fait, donc c'est une vie de télé-réalité, ils vont faire leurs courses dans un magasin et sur la liste de courses il y a du shampoing, voilà, et à partir de ça la fille qui accompagnait les deux autres qui venaient
c'était je crois d'ailleurs un ange inconnu.
Oui, voilà. Mmh. Donc, ils étaient plusieurs à faire les courses. Et à ce moment-là, la fameuse Nabila fait une sortie en disant « Non, mais on va pas acheter le shampoing. Ça, c'est chacun sur les comptes communs, mais c'est la vie de chacun, etc. » Et donc, après, on la voit dans ce qu'on appelait le confessionnal dans ses émissions. Enfin, voilà, dans le moment où elle s'exprime face caméra, où elle revient sur ce qui s'est passé. Et là, elle nous fait le coup du « Non, mais allô !» Voilà. C'est une fille, elle a pas de shampoing. C'est comme si elle avait pas de cheveux, quoi.
Heureusement que vous êtes là pour me raconter, comme ça je désormais quand on me dira allô, je saurai de quoi on parle.
Ah bah, après on peut dire aussi allô parce qu'on téléphone,
on m'appelle, ah oui, mince.
Ça n'a pas de rapport avec la bille.
Voilà, donc après bah ils sont c'est des candidats, bon on parlait tout à l'heure des salaires et des reconnaissances en tant qu'artiste interprète. Là, on nous dit que Amélie qui est la candidate la mieux payée qui était dans Secret Story 4 sur TF1 mais aussi dans les saisons 1 et 4 des Anges de la télé-réalité percevrait 35 000 euros pour 10 semaines de tournage. Voilà. pour la fameuse Nabila, hein, qui était dans L'amour est aveugle, hein. Autant de concepts fantastiques. Et elle était aussi dans la quatrième saison des Anges de la Télé-réalité.
Moi, j'adore quand même L'amour elle... est aveugle. Et puis après, il y a l'émission La Belle. Et
c'est pas. Un... Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, la jeune femme, pointerait donc à 25 000 euros pour l'intégralité du tournage. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu moins payés, alors, pour différentes raisons.
Parce qu'ils sont pas connus.
Voilà, parce qu'ils sont moins connus. Enfin, voilà. Et puis, bah, les, bien sûr, ceux qui sont les moins bien payés, c'est les deux, effectivement, que tu disais, les deux anonymes, qui se contenteraient seulement de 10 000 euros.
Enfin, moi, je veux bien faire ça, hein, pour 10 000 euros.
Ça, ouais,
quand même bien
semaines.
Payé 10 000 euros, non, parce qu'on est même en train de dire que 10 000 euros, mais enfin...
Ça fait 1 000 euros la semaine, effectivement.
Oui, pour rien faire du tout, ça va, quoi.
Voilà.
Hein non, mais rien faire du tout en sous-vêtements, hein. T'es toujours partante.
Effectivement, c'est une contrainte. Et on termine peut-être cette fois-ci, maintenant, avec la Star Academy, parce que tout à l'heure, j'ai...
Voilà, le programme d'Aurélie.
Voilà. Donc la Star Academy qui, en fait, selon le site OZAP, Energy 12 a décidé de ne pas renouveler la Star Academy la saison prochaine. Et donc, Endemol va faire un petit peu la tournée des chaînes concurrentes. C'est possible que ce soit peut-être un des futurs programmes des nouvelles chaînes de la TNT pour l'année prochaine. Voilà. Bon, malgré tout, c'est un programme qui a plutôt bien marché, même s'il a déçu Energy 12. Bon, ça, avec
alors,
500,
il a marché ou pas?
Ouais, voilà, 500 000 fidèles en moyenne. Bon, effectivement, aujourd'hui, on est à 1 million pour les Anges 5, donc forcément, sur un programme qui forcément coûte moins cher, parce que mettre 10 personnes dans une maison, même à l'autre bout du monde, ça coûte, voilà, finalement pas très très cher. Voilà, sur la Star Academy, il y a tout un travail derrière, il y a des plateaux, il y a des techniciens, il y a de la musique, enfin voilà. Même si on met en avant la partie télé-réalité, il y a quand même beaucoup de choses qui se font.
C'est sûr que se mettre à poil, ça coûte moins cher.
Et voilà. Ouais. Voilà,
en
voilà.
Ça coûte moins cher en vêtements, déjà.
Ah, quoique, tu sais, hein, quand il n'y a pas beaucoup de tissus, c'est cher aussi. Hein.
Voilà.
Bah, merci, Guillaume, en tout cas, pour nous avoir dit autant de choses sur les émissions de télé-réalité. Et puis, voilà, on va continuer de regarder nos programmes préférés. D'ailleurs, tu regardes quoi, généralement, la télévision?
Là, en ce moment, pas beaucoup de choses parce que je suis pas trop.
Oui, on a bien compris, c'était soda en ce moment.
Non, si, ce que j'ai eu grand plaisir à retrouver, c'est la nouvelle saison de NCIS Los Angeles. Voilà, avec une équipe qui nous change un peu de Gibbs et des autres, là, avec la fameuse Etty Lang et toute son équipe. Et là, je crois que, je trouve cette série assez sympa et elle donne
un
peu plus.
Nouveau souffle.
Oui, ça donne un peu un nouveau souffle à ce programme et donc c'était le petit coup de cœur du moment. Puis après, moi, je reste toujours fidèle aux émissions d'actualité et aux émissions plus politique, voilà, Yves Calvi le lundi, qui est toujours de très grande qualité, et puis la semaine aussi sur France 5, avec la rediffusion en soirée que je vois après le premier programme de la soirée.
Très bien. Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Alors, je vais vous proposer une chanson de saison, elle est toute courte, mais c'est une chanson donc de Vincent Delerme. Pourquoi de saison? Parce qu'on a parlé de foot avec le match entre le Barça et le PSG il y a deux jours. Et puis, parce qu'il y a aussi les chocolats de Pâques. Et donc, cette chanson...
Ah bah on les digère, là.
Voilà, oui, mais bon, on peut toujours en manger.
Oui, encore un petit peu.
Oui, encore, voilà, il en reste un peu. Et donc, je vous propose une chanson de Vincent Delerme, un tacle de Patrick Vieira n'est pas une truite en chocolat.
C'était son discours au réveil en général. J'ai mis du temps et avant-hier j'ai trouvé l'argument qui l'a calmé sévère. Un tacle de Patrick Vieira n'est pas une truite en chocolat, une tente quechua sur le canal, un 4 étoiles. Un dirigeant de la NCR n'est pas un mono de sport d'hiver. Cette photo de toi à Berlin, bah c'est pas rien. À gauche, à droite, c'est blanc, bonnet. C'était son discours ligne 4 après Châtelet. J'ai mis du temps et à d'en faire. J'ai trouvé l'argument qui fait pleurer sa mère. Un bras d'honneur de Weinrunner n'est pas une peluche de Mickey. Happy Mondays au Bataclan, un thé dansant. Un témoignage de l'abbé Pierre n'est pas une soirée infirmière. Cette photo de toi à Berlin, bah c'est pas rien.
Elle
et lui. Et on se retrouve en direct de la place au blé pour cette troisième partie d'Actuel et lui. Et maintenant, c'est Aurélie qui s'y colle avec une chronique sur le temps qui passe.
L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Dame, dame, dé, oh, oh, oh.
Dame, dame, vous l'avez sans doute remarqué au fil de nos émissions enregistrées, nous avons pas mal galéré avec la mise en perspective des dates. Au moment de l'enregistrement, on vous parlait toujours d'événements qui allaient avoir lieu avant, après, entre le moment de l'enregistrement et de la diffusion. Enfin, on vous a toujours fait des émissions très embrouillées. Alors justement, en ce mois de mars, c'est toujours le moment de la discussion interminable autour du changement d'heure. Est-ce qu'on perd une heure? Est-ce qu'on avance sa pendule? Est-ce qu'on dort plus? Enfin, souvent, on n'y comprend pas grand-chose et on se demande finalement à quoi ça sert.
En tout cas, là, il est 13h18. C'est
tout
du
à fait.
Direct.
C'est du direct. Et donc, on a changé d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Et oui, effectivement, c'est le symbole du changement de saison. Le changement d'heure s'effectue deux fois par an, au printemps et à l'automne. Le passage à l'heure d'hiver, de l'heure d'hiver à celle d'été et inversement, s'effectue toujours dans une nuit du samedi au dimanche vers 2h du matin. Donc, soit on avance les pendules, les montres, les réveils, les horloges d'une heure, de 2h. À 2h du matin, il est 3h.
Et alors, qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, en fait, pour faire simple, il fera nuit plus tard. Et lors du retour à l'heure d'hiver, on reculera d'une heure à 2h. À 3h, il sera 2h. Je vous l'avais dit.
Voilà. On a toujours du mal. Hein,
voilà. Par conséquent, le jour se couchera plus tôt. Et lors du passage à l'heure d'été, on dit qu'on perd une heure de sommeil. Et lors du passage à l'heure d'hiver, les horloges sont retardées. Et donc, on a une heure de sommeil gagnée.
Alors moi, en plus, cette semaine, j'ai commencé tous les jours à 8h30, donc autant vous dire, tôt le matin, pour moi, c'est trop tôt. Donc le changement d'heure, ça m'a crevé, quoi. Bah non, mais non, il était 7h30, quoi.
Avant. Ah mais allô, quoi.
Bah ouais, non, mais allô, quoi. Allez, c'est parti, deuxième extrait musical. Ah oui, et donc les horloges tournent, mais depuis quand est-ce qu'on change cette heure ?
Eh ben, on va remonter un peu le temps justement. En fait, cette histoire de changement d'heure ne s'est pas faite en une seule fois. C'est une idée assez ancienne en fait. La première fois qu'on la voit, c'est le 16 avril 1784. C'est Benjamin Franklin qui l'évoque pour la première fois, cette possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie. Mais cette idée reste sans suite et n'est reprise qu'en 1907 par un Britannique, William Willey, qui démarre une campagne contre, l'expression est jolie, le gaspillage de lumière. Alors, la première étape, en fait, en 1911, la France adopte l'heure donnée par Greenwich. Alors, rappelez-vous vos cours de géographie, les fuseaux horaires, Greenwich, donc une petite ville située près de Londres.
Ah, moi, j'y suis allée.
Où se trouve, donc, l'Observatoire astronomique royal. Et en fait, notre pays est situé sur ce fuseau horaire de Greenwich. Donc là, jusque-là, tout va bien. On se met à une heure commune pour tout le monde. Et l'Allemagne, elle, choisit la première, le 30 avril 1916, de passer à l'heure d'été. La même année, l'Angleterre et la France vont aussi passer à l'heure d'été par rapport à Greenwich. Donc on fait Greenwich plus 1. Et sauf que là, 1940, la France est occupée par les Allemands et adopte l'heure du fuseau horaire d'à côté, c'est-à-dire l'heure de Berlin. Alors là, on a à la fois de la géographie et du contrôle administratif des horaires. Donc vous imaginez. Donc il faut rajouter 2 heures en heure d'été sur l'heure de Greenwich et 1 heure en hiver. Et alors, accrochez-vous, parce que finalement, en 1945, on revient à l'heure de 1916, donc on perd ces 2 heures et on applique l'heure d'été toute l'année.
C'est qu'en plus, il faut être bon en maths.
Ah bah c'est sûr.
Là, franchement, si vous avez compris, enfin, vous pourrez écouter le podcast pour l'écouter lentement.
Et vous l'écoutez avec une carte, en fait, de fuseaux horaires.
Faire un dessin, Aurélie.
Voilà, il faut faire un petit dessin, suivre les fuseaux horaires, tac, tac.
L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter le temps.
Et en fait, finalement, c'est suite au choc pétrolier de 1973 et à la hausse du prix de l'électricité, conséquence de la multiplication par 4 du prix du pétrole, que le président Valéry Giscard d'Estaing décide que les montres seront avancées l'hiver d'une heure sur l'heure de Greenwich et de 2 heures l'été. L'idée est reprise d'ailleurs par l'Irlande et l'Italie en 1966 et finalement la plupart des pays européens dans les années 80.
Ouais, et donc en fait, ça fait plus 1 et plus 2 quand même par rapport au temps universel. Hein.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, est-ce que tous les pays pratiquent ce changement d'heure ?
Alors, le principe du changement d'heure est appliqué dans 70 pays dans le monde. Mais avec l'abandon du changement d'heure en Chine, donc évidemment vu leur population, en 1992 et en Russie en 2011, en fait, la majorité de la population mondiale garde son heure légale constante toute l'année. Et par ailleurs, en raison de la faible variation de la durée diurne entre l'été et l'hiver dans les régions proches de l'équateur, les pays tropicaux ne changent pas d'heure, puisque pour eux, ça n'a pas de sens, le jour reste toujours à la même longueur.
Ils s'embêtent pas.
Et ben voilà, ils s'embêtent pas. En fait, c'est les pays de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud aussi qui pratiquent ce changement d'heure, mais donc plus loin des tropiques. Alors là, ça devient sportif, parce que imaginez que on est dans 2 pays de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, l'horaire peut prendre 3 valeurs différentes chaque année. Alors un petit exercice, vous voulez aller au Chili, on a 6 heures de décalage horaire en plein été boréal, 4 heures en plein hiver boréal, mais quand eux changent d'heure et quand nous on change d'heure, il peut y avoir en fait 5 heures de différence aux périodes du changement d'heure.
Donc vaut mieux y aller en hiver plutôt qu'en été, on a moins de décalage alors.
On a moins de décalage horaire, ouais.
Bon, enfin, c'est quand même très compliqué tout ça. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Enfin, je suppose qu'il y en a un, puisque du coup, beaucoup de pays changent d'heure, mais quel est cet intérêt ?
Alors effectivement, j'ai parlé tout à l'heure des économies d'énergie et de la lumière. Donc pour être pertinent, en fait, le changement d'heure ne doit avoir lieu que dans des régions tempérées où les variations saisonnières de luminosité sont significatives. Grâce au changement d'heure d'été, les Français pourront bénéficier d'un ensoleillement maximal et faire des économies d'énergie. L'intérêt de l'heure d'été réside, pour ses promoteurs, dans les économies d'énergie qu'elle est censée permettre. On estime en fait que cette action permet d'économiser 250 000 tonnes d'équivalent pétrole, soit à peu près une économie d'éclairage pour les années 2000 à 2005 de 4% par an.
Ouais, c'est relativement important. Et donc, il s'agit vraiment de faire des économies.
Et oui, c'est un peu là, en fait, que réside la difficulté à montrer la pertinence du système, parce qu'en fait, il faudrait qu'on prouve une absence de communication, de consommation. J'ai des problèmes dans la communication, mais c'est une absence de consommation qu'il s'agit de prouver. Et donc, c'est toujours plus compliqué de prouver l'absence. En heure d'hiver, en fait, le jour se lève vers 4h15 et tombe vers 21h30. Si on passe à l'heure d'été, le jour va se lever donc vers 5h15 et se coucher vers 22h30. Compte tenu des habitudes sociales en France, l'éclairage des habitations n'est pas utile à 4 heures du matin, puisque c'est souvent l'heure où les habitants dorment. Et par contre, le soir, de 21h à 22h, on va avoir moins besoin d'éclairage. Donc, on va prolonger d'une heure l'ensoleillement en soirée, sans pour autant réduire le début effectif de la journée. Donc, le gain du changement d'heure, c'est plus de lumière naturelle pour un équilibre biologique et donc du confort.
Oui, enfin, quand on change en hiver, on se dit toujours, donc comme tu disais tout à l'heure, cool, on va dormir une heure de plus. Sauf que là, en été, on se dit, oh, flûte, on dort une heure en moins. C'est quand même difficile de se remettre de ce changement d'heure.
Effectivement.
C'est sûr.
Mais que ce soit d'ailleurs voilà. Pour les bébés, les personnes âgées, et puis tous ceux qui travaillent.
Effectivement, c'est ce que les...
Merci de ne pas m'avoir laissé...
Pas dans les bébés.
Ni dans les bébés, ni dans les personnes âgées.
Et nous, tu crois qu'on est dans quoi?
Non, mais tu t'es pas plaint, c'est pour ça.
Ah bah si, parce que moi, j'aime pas quand on change l'heure en été.
Alors effectivement, il semble bien que le changement d'heure ait des incidences sur la santé et notamment provoquerait des troubles du sommeil. L'heure ne correspond plus au rythme solaire naturel et donc perturbe l'horloge biologique. Donc vous parliez des personnes âgées, des enfants, mais aussi une autre incidence économique, c'est par exemple sur les animaux domestiques. Les vaches laitières, par exemple, semblent être perturbées et on observe une baisse de la production laitière, en fait, au moment du changement d'heure.
D'ailleurs, sur le corps, en fait, certains médecins montrent qu'il y a une certaine irritabilité, justement, pendant ce changement d'heure en été, des troubles du sommeil, comme tu le disais, de l'appétit, des petites infections virales, et qu'apparemment, on prescrivait plus de médicaments pour dormir, en fait, quand on changeait d'heure l'été.
Oui.
Voilà.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres arguments contre par rapport à... Enfin voilà, donc on a
effectivement, il y a la question de la santé, mais c'est pas les seuls arguments contre, en fait. C'est d'abord le coût de ce changement d'horaire qui est mis en avant, avec une mobilisation du personnel qui impose à toutes les activités à horaire fixe une certaine adaptation. Par exemple, imaginez-vous pour les compagnies aériennes ou la SNCF, même simplement, il faut toujours prévoir des horaires spéciaux et être encore plus vigilant au moment du changement d'heure. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argument des économies d'énergie et d'éclairage prévaut. Sauf qu'en fait, depuis les années 70, la donne a pas mal changé. La généralisation des lampes à fluorescence et l'adaptation de l'éclairage public à la luminosité ambiante participent en fait à l'amélioration de l'efficience énergétique. Et donc, on réduit les bénéfices de ce changement d'heure parce qu'on consomme moins sur ces pôles-là. Le décalage des activités a également une incidence avec l'augmentation des besoins en chauffage le matin. Alors en ce moment là, au printemps, c'est vrai qu'on va vouloir quand on se lève avoir un petit peu plus chaud. Et puis qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, la soirée désormais est de plus en plus consacrée à des loisirs modernes qui sont souvent de grands consommateurs d'électricité, comme les home cinémas, les écrans plats géants, les vidéoprojecteurs, les consoles de jeux, les ordinateurs. Ça, peu importe qu'il fasse jour ou pas, ça fonctionne dans tous les foyers.
Mais apparemment, là, j'ai vu que selon une étude réalisée aux États-Unis, eh bien, cette étude montrait que le changement d'heure conduisait à une augmentation des besoins en chauffage le matin, et donc en début de printemps, et puis aussi en climatisation les soirs d'été.
Voilà.
Donc c'est ça, plus rajouté au reste, on se dit, bon, finalement, ça nous coûte cher.
En tout cas, ça annule les efforts qui étaient faits. Voilà, en gain.
Et ce que j'ai entendu dire aussi à l'occasion de ce changement d'heure, c'est que très prochainement, on atteindrait aussi avec le développement, tu parlais des lampes fluorescentes, mais maintenant donc des lampes LED, et que très prochainement, on atteindra le seuil finalement où il n'y aura plus d'intérêt à faire ce changement.
Oui, effectivement, c'est vraiment remis en question. On parle notamment d'un passage à une heure d'été simple et constante, c'est-à-dire que toute l'année, on restera à l'heure solaire moyenne du lieu, puisque évidemment en France, on est entre Brest et Strasbourg, on a quand même une différence. Donc du coup, on sera à GMT plus 1, donc c'est-à-dire l'heure de Greenwich dont je parlais tout à l'heure, plus 1, et surtout, on ne change plus. Donc cette solution a déjà été adoptée dans certains pays, c'est pour ça qu'on sait que ça peut fonctionner, donc l'Islande, la Russie, la Biélorussie, et ces partisans en fait font valoir que ce système a les mêmes avantages que l'heure d'été normale, sans les problèmes liés au décalage artificiel 2 fois par an.
Mais donc en fait au final c'est des changements qui nous épuisent.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que ces promoteurs souhaitent qu'on ne change plus. Mais en même temps, l'heure n'est qu'un chiffre et personne, en fait, ne vous empêcherait de vous lever en heure d'hiver ou en heure d'été en même temps que le soleil. Donc, si vous n'avez pas besoin de regarder le réveil pour ça, en fait, qu'il soit 5 heures d'été ou 7 heures solaires ne change rien. Alors, je ne suis pas en train de vous faire de la magie, hein, c'est pas de la parapsychologie, de la science-fiction. J'escamote pas ou je rajoute pas une heure de soleil. En fait, il s'agit simplement de numéros des moments de la journée qui ne modifient pas la course du soleil ni celle du temps. Aucune administration, pour l'instant, n'est capable de supprimer ou de rajouter du temps. Heureusement.
C'est des numéros, mais effectivement, on vit grâce à ces chiffres aussi. C'est quand on se donne rendez-vous. Notre vie est régie par les chiffres.
Oui, effectivement, mais si tu veux te lever en même temps que le soleil, en fait, tu passeras simplement plus de temps chez toi avant l'heure légale à laquelle tu vas aller travailler. Mais finalement...
Et pour se donner rendez-vous quand le soleil se lève.
Bah oui, mais je suis pas là quand tu te lèves. Tu peux bien, une fois que tu t'es levé, regarder ta montre et venir me rejoindre qu'à 9h et pas au moment où tu sautes du lit.
Oui, non, mais voilà, c'est une construction sociale finalement, voilà. et historique, hein, on l'a vu tout à l'heure. Plus que, bah, effectivement, et une adaptation finalement du mode de vie avec... Oui. Avec la nature, mais la nature, on ne la change pas. Et
voilà. En fait, c'est nous qui pourrions choisir de suivre le soleil plutôt que de suivre sa montre.
Oui, mais bon, voilà. Le truc, c'est qu'on pourrait faire simple, mais on aime bien tout ce qui est compliqué.
Voilà.
En gros. Parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est quand on change les heures, donc c'est à 2h, c'est ça? La nuit. Voilà. C'est qu'en plus, il faut quand même, donc au niveau de la SNCF, mais aussi toutes les horloges qui sont dans les villes, donc dans les gares, dans les aéroports, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui changent, en fait. Et c'est ce qu'il disait aussi, c'est que ça coûte cher aussi. Oui. Parce que ce sont des personnes qui doivent à chaque fois changer. Alors, il y a manuellement, après, il y a de façon aussi automatique, mais il faut quand même le faire. Donc, c'est aussi une perte de temps.
De plus en plus, quand même, les portables, et etc., les ordi, tout s'est changé, puisqu'en fait, on sait, dès aujourd'hui...
Il regardait à l'hôtel de ville, là, ou sur les églises, c'est vrai que généralement, il y a encore les horloges. Il faut les changer.
Ah oui, il faut les changer manuellement, on est d'accord. Mais...
Ouais, moi, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, j'étais devant l'ordinateur, ici à la radio, pour vérifier que tout passe bien. Non, c'est pas vrai. mais le changement, c'est effectivement fait tout seul, puisqu'on est avec de l'informatique, voilà. Et donc que ça s'est géré automatiquement pendant la nuit.
Et puis, c'était très compliqué. C'est ce qu'il disait aussi, c'est que par exemple, à la SNCF ou dans les aéroports, c'est qu'il faut aussi gérer ça par rapport donc au train, aux avions. Oui. Enfin, c'est un casse-tête chinois, quoi. Parce que nous, encore, on s'en fiche, on est au lit, on dort, ou on regarde la télé, peu importe. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui travaillent, il faut gérer aussi ces décalages.
Mais c'est le pourquoi de cet horaire-là aussi, puisque c'est le moment où ça impacte le moins les trafics ferroviaires, les trafics aériens.
Mais il y en a quand même.
Mais bien sûr. Bien, mais merci Aurélie pour... on n'a pas tout dit ?
Si.
Non, parce que tu...
Si.
Mais voilà, mais il est l'heure bientôt.
Il est 13h34.
Voilà, il est bientôt l'heure de terminer. Peut-être que tu vas nous faire une petite proposition musicale maintenant.
Et oui, comme j'ai senti justement qu'il fallait vous redonner la pêche après ce changement d'horaire, je vous propose Une belle journée de Mylène Farmer.
On se retrouve après pour la conclusion de l'émission.
Yeah.
chez lui. Et voilà, on papotait et on s'est laissé presque surprendre par la fin de la chanson. C'est la fin de cette émission actuelle et lui. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour une nouvelle émission. Peut-être sans doute en direct, on va recaler ça tout à l'heure. Et vous pouvez réécouter cette émission mardi à 18h11. Je signale aussi que ce soir à 20h, vous retrouvez un numéro spécial d'Orinoco consacré aux femmes vénézuéliennes qui chantent. Donc un numéro femme et ça va être pendant tout le mois les jeudis soirs. Voilà, plein de rendez-vous toujours sur la grille de 48FM. On fait un petit coucou à Ludovic, à Sacha et à Audrey. Et puis, on se dit à très bientôt.
À très bientôt et puis bon après-midi.
À bientôt.
Bon après-midi à tous. Au revoir et bonne écoute sur 48FM.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu. Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.